découvrir et comprendre la doctrine sociale de l'Église avec Mgr Marc Hayé.
Voilà, je pense qu'il est temps, dans cette nouvelle catéchèse, de conclure sur la question de la démocratie au regard de la doctrine sociale de l'Église. Vous vous souvenez que lors de nos précédentes catéchèses, nous nous sommes penchés sur ce que saint Jean-Paul II appelait lui-même les conditions d'une saine démocratie. Reprenons d'ailleurs, je pense, une expression du vénérable Pie XII. C'est ainsi que nous avons souligné que l'avènement d'une saine et authentique démocratie se heurte à bien des obstacles et bien des difficultés, parmi lesquels le pouvoir de la technocratie, qui devient de plus en plus envahissant dans nos sociétés occidentales, et pas seulement occidentales d'ailleurs, en Asie aussi, qui dans le cadre d'un État centralisateur et jacobin tel que l'État français, il faut bien assumer son histoire, comme au sein de l'Union européenne, entend fréquemment imposer ses vues d'en haut. On se rappelle que l'Union européenne est gouvernée par une commission européenne qui est composée de hauts fonctionnaires, de commissaires qui sont en fait des hauts fonctionnaires un peu technocrates et qui ne sont pas élus par les citoyens, mais nommés d'une certaine manière par l'appareil de l'Union européenne. Et donc, je répète que le pouvoir de la technocratie, qui entend imposer fréquemment ses vues d'en haut, sans tenir compte des intérêts, des aspirations ou de la volonté clairement affichée des populations concernées. Il en va de même de certains lobbies, comme nous avons essayé de le souligner aussi, bien qu'ultra minoritaires, qui, agissant le plus souvent dans l'ombre, ont amplement démontré qu'ils étaient en mesure de faire primer au Parlement, dans la législation, comme dans les allées du pouvoir, les intérêts catégoriels qu'ils défendent, ou les conceptions philosophiques et politiques qui sont les leurs, sur une prétendue volonté populaire à laquelle ils ne croient pas un instant. Ces catéchèses nous ont aussi donné l'occasion de souligner que l'influence des médias et des réseaux sociaux, dont la préoccupation première n'est pas d'informer, mais plutôt d'orienter, voire de manipuler, de façonner l'opinion publique en fonction de certains présupposés idéologiques, pouvait également constituer un obstacle ou un frein à l'instauration d'une saine démocratie. On assiste depuis peu et au fait que certains réseaux sociaux peuvent se permettre de censurer tel ou tel propos porté par des hommes politiques, même des présidents de grandes démocraties occidentales, sous prétexte que ça pourrait apparaître pour eux des délits d'opinion. À propos de la culture de mort et de la conjuration contre la vie qu'il entendait dénoncer et combattre, saint Jean-Paul II écrivait en 1995 dans sa fameuse encyclique « Evangelium Vitae », l'évangile de la vie, je cite au numéro 17, « On ne peut nier que les médias sont souvent complices de cette conjuration en répandant dans l'opinion publique un état d'esprit qui présente le recours à la contraception, à la stérilisation, à l'avortement et même à l'euthanasie comme un signe de progrès et une conquête de la liberté, tandis qu'il dépeint comme des ennemis de la liberté et du progrès les positions inconditionnelles en faveur de la vie. » Fin de citation. Saint Jean-Paul II ne fait ici que rappeler, comme l'Église catholique l'a toujours fait par la voix de ses prédécesseurs et de ses successeurs, Benoît XVI et François, qui ne dérogent pas à la règle, qu'il ne peut exister de saine démocratie sans respect des valeurs fondamentales qui découlent de la loi naturelle, c'est-à-dire du décalogue. Je cite le numéro 71 d'Evangelium Vitae. « Pour l'avenir de la société et pour le développement d'une saine démocratie, il est donc urgent de redécouvrir l'existence de valeurs humaines et morales essentielles et originelles qui découlent de la vérité même de l'être humain et qui expriment et protègent la dignité de la personne. Ce sont donc des valeurs qu'aucune personne, aucune majorité, ni aucun État ne pourront jamais créer, modifier ou abolir, mais qu'on est tenu de reconnaître, respecter et promouvoir. » Fin de citation. Et ajoutons au numéro 101 de cette même encyclique, « Il ne peut y avoir de vraie démocratie si l'on ne reconnaît pas la dignité de toute personne et si l'on ne respecte pas les droits. » Fin de citation. Je renvoie d'ailleurs aussi à l'encyclique beaucoup plus récente du pape François, Fratelli Tutti, dans le 6e chapitre sur « Dialogue et amitié sociale », où il rappelle cette doctrine fondamentale de l'Église sur ses valeurs essentielles, non négociables, universelles, qui sont inscrites dans le cœur de l'homme, dans la nature de l'homme, et qui ne peuvent être soumises à aucun relativisme. En d'autres termes, et pour l'Église catholique, une démocratie naît et ne peut demeurer pleinement légitime ou réellement incontestable qu'à la condition de résister à la tentation du relativisme et du laïcisme qui, de nos jours, ronge la plupart des sociétés et des États. Le rappel que nous venons de faire, évidemment, au risque de nous répéter, mais ces vérités ont toujours besoin d'être répétées pour que nous puissions bien les intégrer, nous donne l'occasion de préciser qu'au XIXe siècle, l'Église ne s'est montrée hostile ou méfiante vis-à-vis du régime démocratique qu'en raison de son fondement laïciste et antireligieux. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur le fameux, entre guillemets, ralliement à la République qui aurait été préconisé par le pape Pie XI. Nous avons bien dit que ce n'était pas tant lui qui avait préconisé cela qu'une expression un peu malheureuse du cardinal Lavigerie, que nous connaissons bien ici puisqu'il est né à Bayonne, fameux toast d'Alger, qu'il s'agissait de dire qu'on pouvait travailler avec la République, mais le plus important, c'était de combattre les lois laïcistes et antireligieuses qui étaient portées par la Troisième République en particulier. C'est entre autres ce que souligne Bruno Couillot, qui est un professeur de philosophie, docteur en philosophie à l'Institut de philosophie comparée, lorsqu'il écrit, je cite, « À l'origine, la démocratie se présentait comme un régime antireligieux, et il y avait une sorte de collusion entre la démocratie et la laïcité, notamment à l'origine du régime de type démocratique et républicain en France. » Fin de citation, mais voyez bien que la démocratie est née quand même dans un contexte profondément hostile à la religion catholique, va sans dire. Voilà qui revient à dire que l'appréciation que l'on peut porter sur le système démocratique ou le régime républicain dépend en définitive de la conception que l'on se fait de la laïcité qui les caractérise. C'est ce qu'avait fort bien perçu l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France, qui précédait ce qu'on appelle maintenant la conférence épiscopale, des évêques de France, dans sa déclaration du 13 novembre 1945. Nous sommes donc après la libération, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Je cite cette déclaration. Si la laïcité de l'État est une doctrine philosophique qui contient toute une conception matérialiste et athée de la vie humaine et de la société, si ces mots veulent définir un système de gouvernement politique qui impose cette conception aux fonctionnaires jusque dans leur vie privée, aux écoles de l'État, à la nation tout entière, nous nous élevons de toutes nos forces contre cette doctrine, nous la condamnons au nom même de la vraie mission de l'État et de la mission de l'Église. Et si la laïcité de l'État signifie la volonté de l'État de ne se soumettre à aucune morale supérieure et de ne reconnaître que son intérêt comme règle de son action, nous affirmons que cette thèse est extrêmement dangereuse, rétrograde et fausse. Vous voyez comment on pourrait reprendre tout à fait aujourd'hui, avec les discussions qui ont émaillé la discussion à l'examen, plus exactement, à l'Assemblée nationale, de ce projet de loi dite sur le séparatisme, qui est en fait pour renforcer les principes de la République, eh bien, on pourrait redire ces mêmes choses qui restent complètement d'actualité, en particulier lorsque M. Gérald Darmanin ose dire que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu.